Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Eh bien, nous arrivons à la 7e émission sur les femmes artistes du temps passé. Que voulez-vous, elles m'ont capturée et maintenant je me sens la dépositaire de leur doléance venue d'outre-tombe, je vais le dire ainsi, mais que je ne cesse d'entendre résonner à mes pauvres oreilles de femmes artistes sensibles et impliquées, n'ayons pas peur des mots. Eh bien, je vais parler d'elles encore aujourd'hui, du mieux que je puisse, et aussi vais-je profiter de la Voix des Arts pour également vous faire écouter leurs créations, un peu plus que lors des émissions précédentes, notamment et surtout les créations musicales, car ces femmes trop longtemps laissées dans l'ombre à cause des conventions et des règles sociales méritent quand même de se faire entendre elles-mêmes afin d'obtenir quelques avis, voire adhésion de vous, les auditeurs. Alors, je rappelle que le 19e siècle a été particulièrement frustrant et injuste vis-à-vis des femmes, et notamment les femmes artistes, vis-à-vis des hommes aussi, hein, globalement, le peuple, les pauvres, ceux qui n'ont pas récolté le fruit de leur dur labeur. Bon, je pense aussi à ceux issus de la classe ouvrière, celle qui a émergé en réponse aux progrès techniques et scientifiques. Les oppositions n'ont pas manqué dans ce monde en pleine mutation, soumis au mercantilisme, avec les abus de pouvoir qui en découlent, et ceci malgré des progrès et des avancées certaines. Enfin, là n'est pas le sujet, mais quand même. Alors, la dernière émission, nous étions arrivés à la période après la Révolution française de 1789, quand l'esclavage a été réhabilité par Napoléon. Les femmes privées de leurs droits légitimes renvoyées à leur foyer pour se fondre sous l'autorité familiale ou maritale, et certaines, entre-temps, les plus belliqueuses et revendicatrices, ont été guillotinées. Souvenez-vous des écrivaines impliquées comme Olympe de Gouges et Manon Roland. Alors, nous sommes ensuite partis en Angleterre et j'avais fini ma présentation sur une Anglaise, Mary Wollstonecraft, née indigente et inculte et devenue, grâce en partie à son opiniâtreté, une écrivaine féministe féconde. Alors, nous arrivons ainsi au 19e siècle. Eh bien, restons en Angleterre puisque nous y sommes et voyons qui sont les écrivaines du moment et ce qu'elles écrivent. Alors, j'y ai trouvé un George Eliot, qui finalement était une femme, de son vrai nom Mary Ann Evans, et elle aurait pris un nom d'homme pour que l'on reconnaisse le sérieux de ses écrits, bien loin de ce qu'il aurait fallu admettre de superficiel si les lecteurs avaient su qu'il s'agissait d'une femme. Et il est dit aussi qu'elle voulait protéger sa vie privée, quelque peu compliquée. Alors apparemment, elle s'est forgée son éducation littéraire grâce à la bibliothèque d'un château dans lequel son père était régisseur et a rencontré au cours de sa vie des érudits masculins, a échangé avec eux. Bon, c'est une vie de littérateur. En tout cas, elle est reconnue comme étant l'un des plus grands écrivains victoriens. Alors je ne pouvais pas passer à côté des sœurs Brontë, écrivaines devenues célèbres et qui font encore l'objet d'un culte maintenant de nos jours. Or, qui étaient-elles? Eh bien, elles étaient les filles d'un pasteur d'origine irlandaise. Elles sont nées et ont vécu en Angleterre, dans le Yorkshire, je crois. Leur père Patrick lui-même écrivait, puisqu'il était auteur de poésie, d'articles de journaux, de pamphlets également. C'était un homme cultivé, apparemment brillant, puisque malgré sa pauvreté, il a étudié au St. John's College de Cambridge, ce qui est quand même une référence. Son épouse est présentée comme une femme enjouée, qui malheureusement est morte très jeune, à l'âge de 38 ans. Et ils ont eu 6 enfants, dont 2 sont décédés à 10 et 11 ans à cause de la tuberculose. Et sur ces 6 enfants, sont restées 3 filles, les écrivaines Charlotte, Émilie et Anne, et un garçon nommé Branwell. Alors, quelle a été leur existence? Comment sont-elles arrivées à l'écriture? Apparemment, la famille était pauvre et donc l'existence était plutôt fruste, organisée autour des exigences de l'activité religieuse du père. Celui-ci, décrit comme un homme austère et rigoureux, aurait veillé à donner à ses enfants, filles et garçons, une bonne éducation, où l'étude était encouragée et même l'écriture. Or, dans leur jeune âge, les filles ont fréquenté une école fondée pour les enfants du clergé, peu fortunés, dans laquelle elles ont souffert. Le livre Jeanne Eyre, écrit par Charlotte, le décrit clairement. Et en effet, il a été par la suite admis que dans cette école, comme dans la plupart des pensionnats pour filles en Angleterre, l'hygiène et la nourriture y étaient insuffisants, au contraire des châtiments. Et certains enfants y mouraient. Les autres en sortaient souvent malades ou atteints physiquement, comme psychologiquement d'ailleurs. Et de plus, c'était l'époque où la tuberculose sévissait, aggravée sans doute par les mauvaises conditions d'existence, voire les privations, voire aussi la conjoncture sociale de l'époque. Bon, voilà pour la prime jeunesse des filles Brontë. Or, ceci dit, elles compléteront leur formation, puisque Charlotte deviendra institutrice. Elle sera également, comme Anne, gouvernante. Elle partage en cela le sort de beaucoup de jeunes filles pauvres, ce qu'Émilie, la plus rebelle et indépendante des trois, refusera de faire. En parallèle de leur quotidien, elles écrivent, composent des poésies, surtout Anne. Entre-temps, Charlotte fait une tentative pour sortir ses écrits de l'ombre et elle les soumet aux spécialistes de l'époque, un poète officiel nommé Robert Souté, qui l'enverra dans le mur ou sous les roses, c'est plus joli même si ça pique, au choix. Ceci pour reprendre des expressions familières mais néanmoins explicites, et ce avec le motif bien souvent rabâché que la littérature n'est pas l'affaire des femmes. Alors elle décide donc, d'un commun accord, de publier toutes les trois sous un nom d'homme, qui est encore le meilleur moyen de transgresser les interdits. Ainsi, elles seront les frères Bell, Charlotte sera Currer, Émilie Ellis et Anne sera Acton. Alors elles sont éditées, mais vendent peu, jusqu'au moment où le vent tourne et c'est la consécration. Et là, elles décident de se montrer telles qu'elles sont, c'est-à-dire des femmes. Alors, entre-temps, leur frère Branwell, pour lequel le père avait des liens un peu plus les cordons de la bourse et fondé des espérances, m'a fini lamentablement ses jours, alors qu'il voulait devenir peintre car il était doué, et finalement il a sombré dans l'alcool, victime de ses démons et donc dans l'oubli, et est décédé de manière plutôt pathétique et à ce qui paraît dans le dégoût de lui-même. Alors, ce fut un choc pour tous. Anne s'en est inspirée pour écrire son roman « La recluse de Whitfell Hall » où elle présente les dégâts dus à l'alcool avec l'un de ses personnages. Alors, quand elle écrit précisément, il est vrai que les trois se sont inspirés de leur propre expérience. Pour continuer avec Anne, celle-ci reste quand même la moins connue des trois et elle est redécouverte maintenant. Et elle a beaucoup écrit des poésies et ses deux romans s'appuient sur ses expériences de vie. Par exemple, encore, son roman Agnès Grey relate la vie d'une fille de pasteur qui gagne sa vie comme gouvernante. Alors Anne est morte à 29 ans, et donc relativement jeune, de maladies, les maladies de l'époque. Alors il y avait la tuberculose, le typhus, etc. Émilie subit le même sort, mais à 30 ans. Son roman le plus connu, Léo d'Hurlevent, est plutôt passionné. Je dirais que le vent et les bourrasques naturelles se mêlant comme en écho au tourment des âmes humaines, c'est le souvenir que j'en garde de ma lecture d'adolescente. Quant à Charlotte, elle épousera sur le tard un pasteur et réussira à atteindre les 39 ans, qui est l'âge du décès de sa mère. Bon, c'est toujours très jeune. Finalement, c'est le père qui vivra le plus vieux en dépassant, je crois, la soixantaine. Alors, qu'a écrit Charlotte? Eh bien, elle a écrit des romans, Shirley, Villette, et elle est l'auteur du célèbre roman intitulé Jeanne Eyre, que gamine j'ai dévoré, ne pouvant le lâcher des mains avant de l'avoir terminé. Alors le cinéma, la télévision, certainement aussi conquis que moi, s'emparant des romans Jeanne R. et Léo de Hurlevent pour en faire des films qui s'échelonneront sur différentes époques courant XXe siècle. Et entre autres, une des dernières versions de Jeanne R. aura été réalisée par Franco Zeffirelli en 1996 avec Charlotte Gainsbourg dans le rôle de Jeanne R. Et idem pour Léo de Hurlevent. Il y eut une version américaine en 1939 avec le célèbre acteur anglais de l'époque Laurence Olivier et l'actrice Merle Oberon. Puis les Hauts de Hurlevent furent repris en 1992 avec Juliette Binoche. Et même le monde de la chanson a été inspiré puisque la chanteuse britannique bien connue Kate Bush a interprété en musique les Hauts de Hurlevent avec le titre anglais Whistling Heights, que les Britanniques m'excusent pour l'accent. Et puisque j'en parle, nous allons faire un saut, je dirais pas qu'il est quantique, car du 19e, nous passons au 21e siècle, le temps d'une chanson créée, interprétée par une femme, Kate Bush. Eh bien voilà, cette chanson ferme le chapitre Brontë avec son lot de drames et néanmoins de grâce, celle de nous faire découvrir les mondes intérieurs de femmes de talent. Et nous continuons notre petit périple tranquillement à la découverte des créatrices du 19e siècle. Enfin, je suppose aussi que toute cette littérature est accessible de nos jours. Je ne suis pas sûre d'avoir lu, par exemple, Marianne Evans alias George Eliot, mais j'ai lu Jane Austen du 18e siècle. Donc, à rechercher si envie de découvrir ces écrivaines que je présente. Je fais cette émission aussi pour cela. Alors, partons faire un petit tour en Amérique dans le Massachusetts. C'est un peu difficile à prononcer. Massachusetts, aux États-Unis, pour rencontrer Emily Dickinson. Alors, celle-ci est surtout une poétesse décrite avec une personnalité introvertie, renfermée, voire sauvage. Elle se comporte de manière plutôt étrange, semble préoccupée par des questions, je ne vais pas dire métaphysiques, mais presque, puisque la religion, la spiritualité, la mort sont des thèmes autour desquels elle gravite et construit même son travail de poète. Alors elle reçoit une solide éducation et a d'ailleurs étudié dans une académie et un séminaire féminin. Alors il faut dire qu'Emily Dickinson n'a pas été épargnée par la mort, car elle a perdu nombre de proches. Et ça, c'était une constante à ces époques, avec la tuberculose surtout, voir aussi quelles étaient les conditions d'existence, la nourriture, bref. Il n'était pas rare que des familles soient décimées, voyez la famille Brontë dont je vous ai parlé avant. Alors pour en revenir à Emily Dickinson, elle restait quasiment cloîtrée chez elle, si bien qu'avec le temps, elle ne voudra même plus sortir. Alors elle mène une existence très simple, dépouillée, austère, sans relief, communique apparemment par courrier, et d'elle d'ailleurs cette citation, car outre l'écriture, je suppose qu'elle lisait, et elle disait « Pour voyager loin, il n'y a pas de meilleur navire qu'un livre ». Reste son écriture, car elle est extrêmement productive et aurait écrit plus de 1000 poèmes, même si elle n'en a publié qu'une dizaine environ. Alors elle sera surtout reconnue au XXe siècle, si bien que de nombreux critiques anglo-saxons la considèrent maintenant comme une poétesse américaine majeure. Alors revenons en France avec une poétesse et écrivaine française nommée Louise Collet, née Révoile de Servannes, qui, elle, a fréquenté un nombre important de littérateurs connus tels Musset, Hugo, Vigny, Baudelaire, ainsi que des peintres, entre autres artistes. C'est une dame qui a obtenu des prix plutôt prestigieux, et notamment un prix de 2000 francs octroyé par l'Académie française, ce qui est quand même conséquent à l'époque. Alors, n'oublions pas, surtout pas George Sand, de son vrai nom Aurore Dupin, devenue par mariage baronne du Devant et qui, elle, a le mérite quand même d'être connue par un grand nombre de nos contemporains, quand même. Alors, est-ce le fait de ses amours tourmentés avec Musset, Chopin, entre autres, ou de sa personnalité controversée? Ça, je ne sais pas. Donc, c'est une femme aisée, ce qui est quand même un avantage pour expérimenter la liberté, car elle ne se gêne pas. Bon, déjà, elle se sépare de son mari, non sans mal, car la séparation a abouti à un long procès. Et puis, c'est quelqu'un qui provoquait la bonne société des bien-pensants, sans complexe, en s'habillant en homme et en fumant la pipe. Et elle écrivait sur son Berry natal, je me souviens de la petite Fadette ou de la Mare au diable par exemple, mais non seulement cela, car auparavant ses autres œuvres sont des romans romantiques comme Indiana, Laila, Valentine, des récits, aussi des réflexions, etc. Alors une autre écrivaine, une russe d'origine mais française d'adoption, c'est la fameuse comtesse de Ségur née Rostopchine, Sophie de son prénom. Elle a écrit Les Malheurs de Sophie, qui nous conte les aventures plus ou moins cocasses d'une petite fille maladroite et espiègle, et ce, sur le tard, puisqu'elle a commencé à écrire véritablement à l'âge de 57 ans, et ce fut un succès quasi immédiat. Et elle a écrit, entre autres, Les Petites Filles Modèles, des contes, des récits comme par exemple les mémoires d'un âne, après la pluie le beau temps, le général d'Ourakine, etc. Et bien d'autres encore. Alors globalement, elle s'est surtout consacrée à la littérature pour enfants, ayant commencé à raconter ses contes pour ses petits-enfants. Mais nous allons refaire une petite pause musicale car le 19e siècle nous propose bon nombre de musiciennes que j'aimerais vous faire écouter. Je vous propose maintenant l'œuvre d'une Parisienne nommée Augusta Holmès. Elle est d'origine anglaise et irlandaise avant de prendre la nationalité française. C'était la filleule du poète Alfred de Vigny. Elle aussi, par commodité, a publié ses partitions sous un pseudonyme masculin, Hermann Zenta. Et à part cela, elle était également chanteuse et pianiste. Alors, elle a composé des oratorios, des mélodies, des chansons, des opéras, des symphonies. Elle s'est même lancée dans la composition en 1889 d'une fresque monumentale, une ode triomphale en célébration du centenaire de la Révolution française. Et pour cet événement, ont été convoqués 900 musiciens, 1200 choristes, qui se sont produits avec grand succès au Palais de l'Industrie à Paris, qui était situé à l'emplacement du Grand Palais et Petit Palais actuel sur les Champs-Élysées. Alors Augusta Holmès fut célèbre en France, mais aussi en Italie et en Allemagne. Et elle provoqua également un petit scandale lorsque, pour sa musique, elle passa le concours de la ville de Paris et qu'elle fut reçue deuxième, le préfet, à ce qu'il paraît, ayant voulu favoriser un homme. Et là, ses camarades musiciens masculins ont pris sa défense et se sont insurgés contre la décision. Et parmi eux se trouvaient les compositeurs bien connus, Massenet, Gounod, pour ne citer que cela. Alors je vous propose d'écouter une composition d'Augusta Holmès intitulée « Les cloches de Corneville » au piano à 8 mains, ce qui n'est pas banal. Thank you. je pense avoir réussi à vous réveiller pour que vous puissiez nous accompagner jusqu'à la fin de cette émission. Ceci dit, je peux vous emmener faire un petit tour du monde avec des écrivaines du 19e siècle, surtout pour la deuxième moitié du siècle jusqu'au début du 20e siècle, car la plupart des écrivaines que j'ai trouvées sont nées à partir de 1870, sauf une Suédoise, Selma Lagerlöf, née en 1858. Elle a commencé par travailler comme institutrice pendant une dizaine d'années, avant que des événements et une rencontre déterminante influencent son destin, et elle a écrit des romans, des nouvelles et des contes. Et son œuvre principale s'intitule « Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède ». Alors il faut dire que c'est une écrivaine imprégnée de sa culture suédoise et qui eut une nombreuse production et la plupart traduites en français. Et j'ajoute qu'elle fut la première femme à recevoir le prix Nobel de littérature. Et en outre, Selma Lagerlöf a été également élue à l'Académie suédoise. Et bien pour nous, pour notre tour du monde, le Danemark, la Roumanie, l'Italie entre autres, ben il faudra attendre la prochaine émission, car il ne nous reste plus de temps, et c'est le moment de nous dire au revoir. Eh bien au revoir et à la prochaine fois. C'était Christine Darboux à La Voix des Arts sur Radio Libre en Périgord 102.3. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.